maintenant les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
Bienvenue dans l'émission des apprenants de français, de langue et communication. Je suis Chloé Nivière, formatrice, et j'ai suivi les participants tout au long du projet Radio Culturel. Lors de cette session, les participants se sont penchés sur l'univers culturel rennais. Ils ont découvert le musée des Beaux-Arts, l'Antipode, la péniche spectacle, l'opéra et le Parlement de Bretagne lors de visites guidées passionnantes. Ils ont interviewé des actrices et des acteurs culturels et nous remercions vivement Lucie Rousseau de l'Antipode, Odile Hay du Musée des Beaux-Arts, Delphine Diveux et Louise de l'Opéra, Fanny Lemal de la Péniche Spectacle, Lisa Godin et Gilles Brouhans pour le Parlement de Bretagne. Les stagiaires de langue et communication ont également travaillé à la présentation d'un élément culturel de leur pays d'origine, un objet, un artiste, un lieu ou un festival. Undram va vous parler d'un instrument de musique typique de Mongolie. Nantisha vous invitera à découvrir la fête des lanternes en Thaïlande. Diana a décidé d'évoquer l'histoire du Parlement de Bucarest. Solange vous racontera l'influence d'une artiste chilienne. Maya s'est intéressée à une fête traditionnelle géorgienne. Ya vous parlera d'un ensemble chorégraphique géorgien moderne. Fawad vous présentera le nouvel an du calendrier persan. Rifat, quant à lui, expliquera les traditions du nouvel an au Bangladesh. Je voudrais remercier vivement tous nos partenaires culturels qui ont accepté à bras ouverts ce projet et ont fait preuve d'une très grande disponibilité pour nous accueillir. Ils ont apporté de la matière et de la réflexion à l'émission et ont permis à notre groupe de vivre des instants riches en échanges et découvertes. Je remercie la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui a financé ce projet. Merci également à mes collègues de langue et communication, en particulier Anaïs et Alice, auprès de qui j'ai pu prendre conseil. Merci aussi à Morgane Soularue de Canal B d'avoir partagé cette aventure avec moi. Enfin, un grand merci aux apprenants de français. Maya, Undram, Nantisha, Diana, Fawad, Rifat, Ya, Inès, Solange, Niamat et Nawid qui se sont montrés très enthousiastes et se sont engagés entièrement dans ce projet. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Diana Tukiluș, j'ai 37 ans, je suis roumaine, mais d'origine de Moldavie. De métier, je suis journaliste, j'aimerais être journaliste d'investigation. Je parle plusieurs langues étrangères, roumain, russe, anglais un peu, français débutant. J'aime cinéma française, littérature et musique roumaine et peinture russe.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Daoulat Zaini Ahmad, j'ai 21 ans, je suis afghan. J'aimerais être traducteur, j'aime littérature, gastronomie française et gastronomie afghane.
Bonjour à tous, je m'appelle Inès, j'ai 32 ans, je viens d'Angola, j'ai 2 enfants. Je suis infirmière, je parle deux langues, portugais et français. J'aime la musique, le cinéma.
Bonjour à tous, je suis Maya, j'ai 41 ans, je suis géorgienne. Je viens de la capitale de Géorgie, et de Tbilissi. J'habite Rennes, j'ai 3 enfants, 3 filles. J'ai mon travail pénitentiaire et justice. J'aime musique, cinéma. Gastronomie française.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nawid, j'ai 26 ans, je suis afghan. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas encore travaillé, mais je suis en train d'apprendre la langue de la français. Et à l'avenir, j'aimerais devenir commerçant. Je parle suédois et dari, qui est ma langue maternelle, et je connais un peu anglais et le français. J'aime bien la musique de la français et gastronomie du français, et aussi j'aime bien gastronomie du afghan.
Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Nandisha Supatilapan. J'ai 30 ans. Je suis thaïlandaise. J'aimerais être pâtissier. Je parle thaï et français. J'aime la musique classique et le cinéma américain. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ondram. J'ai 37 ans. Je viens de Mongolie. J'ai un enfant. Je suis traductrice japonaise. Je parle quelques langues. Japon, coréen, russe, anglais et mongol. Et maintenant, apprendre français. J'aime musique et danse, peinture et aussi tennis. Je veux connaître la culture et les coutumes de tous les pays.
Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Fawad Shehriar Eliassi. J'ai 27 ans. Je suis afghan. J'aimerais être un homme d'affaires. Je parle plusieurs langues. Je parle anglais, dari, pashto, ourdou et français. J'aime la musique afghane et la gastronomie afghane.
Bonjour à tous, à tous. Je suis Bangladesh. J'habite Rennes. Je suis informaticien, ingénieur. Je parle la 5 langues. La française, anglais, bengali, hindi, ourdou. J'aime beaucoup le cinéma. J'aime la musique. J'aime le football. J'aime le jeu vidéo. J'aime gastronomie française. Gastronomie beaucoup la bengali. Merci beaucoup à tous. Au revoir.
Le Palais du Parlement est un édifice emblématique de Bucarest, en Roumanie. Il a été ouvert le 22 décembre 1994. C'est le plus grand bâtiment administratif d'Europe et le second du monde, après le Pentagone. J'aime et les gens de mon pays aiment parce qu'ici, il y a encore un centre de conférences internationales et trois musées, tels que le Musée national d'art contemporain, le Musée du totalitarisme communiste et le Musée du Palais. Ainsi, c'est important dans mon pays parce que c'est une grande institution administrative, politique et culturelle. C'est un objectif touristique important à visiter pour les Français aussi, pour comprendre un page de l'histoire de ce pays et en même temps qu'ils visiteront aussi la capitale de Roumanie. La capitale qui, dans l'entre-deux-guerres, s'appelait aussi Petit Paris, car il y avait une relation politique et culturelle étroite entre Roumanie et la France qui s'est transmise jusqu'à nos jours. Une relation qui s'est construite du fait que de nombreuses personnalités de divers domaines d'activité importants ont étudié dans les universités les plus prestigieuses de France, comme par exemple la Sorbonne.
Je m'appelle Nantisha. Je voudrais parler de cette fête, le Loy Krathong, parce que c'est une tradition thaïlandaise qui existe depuis très longtemps. En Thaïlande, la tradition Loy Krathong a lieu lors de la pleine lune du 12e mois du calendrier lunaire le 8 novembre cette année, dans toutes les régions et surtout dans les zones proches des sources d'eau. Il s'agit de montrer son affection à Pramer Khonkra, déesse de l'eau et des rivières qui nous permet de boire, de manger, de vivre et de s'excuser d'avoir rendu les sources d'eau impures. On se coupe les cheveux et les ongles pour se purifier en les faisant flotter comme les souffrances, peines, maladies et mauvaises choses pour qu'elles partent avec la rivière. Loy Krathong contribue à préserver les anciennes traditions. C'est aussi une occasion de réunir la famille. La fête est en soirée. On peut y aller avec notre famille et notre petite amie pour rejoindre Loy Krathong ensemble à une source d'eau. L'origine de cette fête n'est pas très claire. En 1242, le roi Phabasomdet Pratulachom Kao Chao Yuhua, le cinquième roi, a organisé une fête. Il a aimé et il a voulu recommencer tous les ans. Merci.
Je m'appelle Maya Tbilisoba. Je viens de Tbilisi et c'est la capitale de la Géorgie. Tbilisoba est une fête annuelle qui a une longue histoire. En Géorgie, c'est une fête culturelle traditionnelle, un festival d'automne célébré fin octobre. Pour la première fois, Tbilisoba a été commencé en 1979 et après, c'est devenu une tradition par des Géorgiens. Cette fête existe depuis le 28 octobre 1995. Il y a plusieurs personnes qui vont au festival chaque année par toutes les villes de Géorgie. Il y a des expositions, des jeunes et plusieurs activités, par exemple judo. Au festival, on peut aussi regarder comment il fabrique tova et on peut également déguster.
Je m'appelle Ia. Dans mon pays d'origine en Géorgie, il y a beaucoup de poètes, écrivains, artistes et d'autres. Mais je veux plutôt parler d'un ensemble chorégraphique sur Chulebi. Ils sont les meilleurs dans leur domaine. Ils sont Chulebi, danse traditionnelle géorgienne. Il y a été créé en 1945 par Iliko Sourishvili et Nino Ramishvili. Et pour finir, ils font des concerts en Géorgie et en dehors de Géorgie aussi. L'histoire du ballet national de Géorgie Sourishvili a commencé dans les années 20. Grâce à 12 danseurs, Iliko Sourishvili et Nino Ramishvili, pour créer ensemble des traditionnels de danse des différentes régions du pays. Depuis sa création officielle en 1945, cette troupe s'est produite dans Danse 98. Ils sont beaucoup dans des danses modernes et traditionnelles. Ils dansent tout ensemble, mais également séparément.
Je m'appelle Solange. Je voudrais parler d'une artiste moderne chilienne reconnue au niveau mondial. C'était une artiste complète, compositrice et chanteuse de folklore, brodeuse, peintre, sculptrice et céramiste. Elle s'appelle Violeta Parra. C'était important pour moi de parler d'elle pour faire connaître aux gens sa musique et ses œuvres. Ces œuvres sont considérées importantes dans mon pays car chacune d'elles ont réussi à dépeindre une réalité sociale chilienne que personne n'avait jamais montrée au monde. Violeta, depuis petite, a montré un intérêt pour la musique grâce à l'influence de son père qui était un professeur de musique et sa mère qui chantait et jouait de la guitare. Elle commence à apprendre la guitare et à chanter à l'âge de 9 ans et compose ses premières chansons à l'âge de 12 ans. Elle va suivre une formation de professeur qui abandonnera pour se consacrer à la musique. Sa carrière professionnelle commence à l'âge de 31 ans. Plus tard, motivée par son frère Nicanor, elle se dédie à sauver, compiler et rechercher la musique folklorique chilienne authentique dans tout le pays. Elle quitte son ancien répertoire et compose ses premières chansons basées sur les formes folkloriques traditionnelles. en compagnie d'instruments comme la guitare, la zampogne, le quatre, entre autres. Dans ces œuvres, nous trouvons aussi qu'elle fonde le Musée national de l'art folklorique chilien, qui dépend de l'Université de Concepción. Elle aussi s'aventure dans la céramique, commence à peindre et à broder ses toiles de jute. Violeta voyage en Europe invitée au Festival de musique dans deux opportunités. Elle donne des concerts et fait l'enregistrement de ses disques en France. Violeta habite entre la France et la Suisse. En 1964, Violeta expose ses toiles de jute, huile et sculptures en fil de fer au Musée des Arts Décoratifs au pavillon de Marsan du Palais du Louvre à Paris. Elle a le privilège d'être la première artiste hispano-américaine à exposer individuellement dans ce musée. Un an plus tard, son livre « Poésie populaire des Andes » est publié en France. À Genève, la Suisse, la télévision tourne le documentaire Violeta Parra, Brodos chilienne. Violeta meurt le 5 février à l'âge de 47 ans à Santiago du Chili. Elle reçoit des hommages tant au Chili qu'à l'étranger qui durent pendant des années. En 2011, André Wood réalise le film Violeta se fue a los cielos, basé sur le livre de son fils Ángel Parra. Actuellement, des centaines d'artistes chiliens se déclarent influencés par sa musique. De même, plusieurs groupes de musique ont fait de nouvelles versions de ses chansons, comme les plus connues Gracias a la vida, Volver a los 17 et Casamiento de Negros.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho.
Je m'appelle Nawid, je vais parler en fête traditionnelle afghane. La fête de Nawroz est la plus ancienne tradition afghane et aussi la première célébration de nouvel an dans l'histoire du monde. Nawroz est la fête traditionnelle des peuples afghans qui célébreront le nouvel an du calendrier persan. Et c'est important pour nous tous car il commence une nouvelle an et heureuse année car le temps se réchauffe et tout le monde est heureux de passer un hiver froid et les fleurs sont juste en train de fleurir.
Je m'appelle Fawad, je vais parler de Nawroz. C'est le nouvel an persan. Nawroz est la fête traditionnelle des peuples persans qui célèbrent la nouvelle an du calendrier. La fête est célébrée par certaines communautés le premier jour du printemps. Le Nawroz existe depuis plus de 3000 ans. Ces jours fériés dans mon pays en 7 jours. Pour célébrer, on va visiter différents endroits avec nos amis et notre famille. On prépare le plat traditionnel et les sucreries. Les gens jouent de la musique et dansent. C'est une fête importante dans mon pays car il y a beaucoup de personnes qui habitent dans mon pays. Nous préparons un repas traditionnel avec sept fruits, ça s'appelle aft mewa, et aussi on achète une plante verte. C'est pour les gens qui pensaient que votre toutes les années ça passe bien comme de l'air pour se porter chance aux sorties de l'hiver. Les hommes portent le sarwal camise avec de la broderie et une veste multicolore. Ils ont aussi un chapeau rond et plat. Les femmes portent des robes longues avec la broderie aussi et à gelée sont mortes. On célébrait Nawroz en France à l'ambassade de l'Afghanistan, Iran et Tadjikistan. On rend visite aux gens et on mange des plats traditionnels. On discute avec la famille et les amis. Beaucoup de Français connaissent cette fête car c'est le premier jour de printemps. J'aime cette fête car c'est une fête traditionnelle et culturelle de mon pays et les gens de mon pays aussi aiment. Nos roses me manquent parce qu'en dehors de mon pays, je ne peux pas célébrer comme je célèbre dans mon pays.
Je m'appelle Ondram. Le Marunghor est un instrument de musique mongole. En France, ça s'appelle la vielle à tête de cheval. Le Marunghor à cheval a une longue histoire et est répandu parmi les Mongols depuis le début du XIIIe siècle. Le Marunghor se compose de trois parties. La tige, le chevalet, l'archet. Il y a une tête de cheval en haut de la tige. Ce type d'instrument de musique avec une tête de cheval s'appelle marunghor. Les deux cordes et les arcs sont fabriqués à partir de crâne de cheval. C'est un instrument avec une grande capacité, une bonne expression sonore et une parfaite harmonie de conception. Le marunghor pour jouer n'importe quel type de mélodie, roots et classique, adapté à tous les types de musique. Tout le monde peut utiliser et jouer selon son intérêt. Je voudrais aussi vous parler d'une tradition avec le marunghor. Quand on emménage dans une nouvelle maison ou un nouveau bureau, on joue du marunghor. On fait ça pour chasser les mauvaises énergies ou les mauvaises ondes et favoriser un futur prospère. On peut aussi accrocher le marunghor dans la maison comme souvenir ou objet de décoration. Depuis quelques années, de plus en plus d'étrangers apprennent le marunghor. Présenter la musique de notre nation au monde. En France, par exemple, Steve Morel, musicienne française qui jouait du marunghor, est passionnée par la culture et les arts mongols. Steve Morel est touche à tout. Quand il a découvert le marunghor, il a été fasciné par l'instrument national mongol. Il est allé en Mongolie pour apprendre à en jouer. Quant à moi, j'aime le marunghor en raison de la mélodie intéressante avec deux cordes. J'ai trouvé que cette musique est relaxante.
Je m'appelle Rifat. Je voudrais parler de Pohla Boishakh. Pohla Boishakh est une des traditions la plus célèbre de la culture bengali. C'est le principal festival du Bangladesh qui représente nos liens avec les racines de notre culture. C'est la première du de Noël à Bengali et se célèbre le 14 avril au Bangladesh, au Bengale occidental, en Assam, au Tripura et dans le monde entier parmi tous les Bengalis. La célébration de Pohla Boishakh trouve ses racines dans la domination mughal. Dans cette région, et aussi la proclamation des réformes de l'empereur Akbar. Pendant le festival, on met des vêtements traditionnels, les mêmes pour les hommes, un costume punjabi, et la même pour la femme
une sari blanche avec des bords rouges. On commence les célébrations à l'aube. Le matin, on chante une chanson célèbre, Esho He Boishak, à l'Université de Dhaka. Les étudiants décorent toute l'université avec de la peinture. Les étudiants de Beaux-Arts font aussi une grande procession dans la ville. La Université de Dhaka au Bangladesh est très grand et très célèbre. Pour tout le monde, pendant le festival, on va voir sa famille et ses amis pour manger, discuter et profiter de toute la journée ensemble. On mange une plat de poisson tropical très délicat qui s'appelle Hilsha. Pohela Boishak est importante pour moi car c'est une tradition qui montre notre identité. En France, on peut fête Pohela Boishak à Paris. Merci.
Merci Rifat. Garde ton micro. Tu connais la chanson dont tu as parlé? Tu pourrais nous la chanter?
Oui, je connais.
Vas-y, chante-la nous.
Esho He Boishak, Esho Esho. Esho He Boishak, Esho Esho. Esho He Boishak, Esho Esho. Esho He Boishak, Esho Esho.
Bravo Rifat.
Pause musicale sur Canal B dans l'émission des stagiaires de langue et communication. On écoute Malik Djoudi, quelques mots.
En face, en face. S'adresser juste quelques mots. Juste en surface. S'adresser quelques mots.
Malik Djoudi, quelques mots sur Canal B dans l'émission des stagiaires de langue et communication.
Bonjour.
Bonjour, Yann.
Vous pouvez vous présenter.
Oui, alors je m'appelle Odile. Je suis médiatrice culturelle au musée. Ça veut dire que mon métier consiste à expliquer ce qu'on a autour de nous, expliquer ce que sont les œuvres, leur histoire, à apprendre à regarder aussi des petites choses qu'on va pas forcément voir si on passe rapidement près d'un tableau ou d'une sculpture.
Vous pouvez venir où on sait trop.
Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, il s'appelle Musée des Beaux-Arts. Donc c'est un endroit qui a été créé il y a déjà très longtemps, qui est là pour montrer des œuvres d'art, les présenter et puis en premier d'ailleurs les conserver parce qu'il y a plein d'objets que vous ne verrez pas parce qu'ils sont cachés, parce qu'on veut les protéger plutôt que de les montrer. Et ici, on est dans un endroit un petit peu à part, c'est la partie archéologie du musée.
Depuis combien de temps le musée est ouvert au public?
Alors, ouvert au public, on va parler de 1950-56.
Quels jours sont gratuits pour visite au musée?
Alors, c'est gratuit, en ce moment c'est gratuit pour tout le monde et tous les jours de la semaine. Il y a juste un moment où parfois on fait payer, c'est quand il y a des expositions qu'on appelle temporaires, ça veut dire des expositions qui durent un petit moment. Mais quand c'est la collection des objets qui sont là tout le temps dans le musée, c'est gratuit pour tout le monde. Et pour nous, c'est très important que tout le monde puisse venir et qu'on ne soit pas gêné par le problème de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on voudrait vraiment que ce soit gratuit et que ça reste gratuit pour tout le monde et tout le temps.
Quelle exposition le musée en ce moment?
Alors, en ce moment, on est entre deux expositions, mais c'est bien. C'est entre deux expositions. On est en train de préparer une grande exposition qui va être vraiment très intéressante et inédite en France. C'est une collection qui parle de l'art de Cuba, de l'île de Cuba. Et on a la chance à Rennes d'avoir un monsieur qui s'appelle François Vallée, qui est un collectionneur d'art cubain. Et chez lui, au fur et à mesure des années, il a acheté à peu près 400 œuvres d'art cubain. Et là, on va avoir la chance d'en avoir 130 ici.
Elle commence quand cette...
Elle va commencer le 26 novembre.
26 novembre.
Jusqu'au 2 avril.
Il y a combien d'œuvres?
Alors, déjà, rien qu'en dessin ancien, on est sur plusieurs milliers d'œuvres. Et ces dessins-là, on ne les voit pas. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait à peu près uniquement 30% de nos collections qui étaient montrées. Et en fait, c'est beaucoup moins que ça. C'est 5%, d'après ma collègue qui s'occupe de l'inventaire. Parce que, voilà, comme je vous disais, il y a des toutes petites choses, il y a des dessins, il y a des petites gravures. Même en Égypte ancienne, on a des tout petits objets comme les amulettes ici. Et à chaque fois, c'est 1 plus 1 plus 1. Donc on est en plusieurs centaines de milliers d'objets.
Du coup, datent les œuvres de le musée dès quel siècle?
Alors les plus anciennes, c'est justement celles qu'on va découvrir tout à l'heure, c'est celles qui viennent d'Égypte ancienne. Et on va pouvoir voir tout à l'heure deux vases qui ont à peu près 5000 ans par rapport à nous. On les date de moins 3200 avant Jésus-Christ. Et pour les œuvres les plus récentes, c'est des œuvres de la vie de maintenant, avec des artistes qui sont encore vivants. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment plusieurs siècles, toute une histoire, et de plusieurs pays aussi. C'est ça qui est intéressant dans un musée comme le nôtre, c'est qu'on va voir vraiment un champ d'objets très, très varié.
Dans le musée, est-ce qu'il y a des œuvres célèbres dans le monde?
Alors, il y en a une en particulier qu'on va essayer d'aller voir. C'est un tableau qui est mondialement connu. Et il y a des personnes qui viennent d'autres pays pour venir le voir, tellement il est important. J'espère qu'il vous plaira. Et puis, autrement, on a des œuvres, par exemple, d'artistes comme Pablo Picasso, ou Rubens, ou Véronèse. On a Georges de la Tour, on a Philippe de Champaigne, on a Vera Molnar pour des artistes plus de notre époque, Aurélie Nemours. Voilà, c'est vraiment très, très vaste comme nom prestigieux. On a cette chance au musée de Rennes d'avoir des œuvres qui sont très importantes dans l'univers de l'histoire de l'art.
Comment l'œuvre d'autres pays vient d'ici?
Il y a plusieurs moyens. Par exemple, en Égypte, les Français, au cours du 19e siècle, ils se sont beaucoup intéressés à l'Égypte. À l'origine, à cause d'un problème militaire, c'est-à-dire qu'il y avait Bonaparte, qui va ensuite devenir Napoléon Ier, qui a envoyé une campagne militaire en Égypte, parce qu'il ne voulait pas que les Anglais s'installent en Égypte. Et là, il y a une découverte de ce pays-là. Une découverte tellement importante qu'après, ils ont envoyé des savants pour étudier ce pays-là. Il y a beaucoup d'objets qui ont été pris et qui ont été ramenés en France. Autrement, on a les objets qui viennent de voyageurs, de touristes, qui ont souhaité donner, offrir les objets de leur collection au musée. On ira voir tout à l'heure le cabinet de curiosité du marquis de Robien. Alors, sa collection est arrivée dans notre musée, c'est parce qu'il y a eu un moment dans l'histoire de France qui s'appelle la Révolution française. Et à ce moment-là, on a dit qu'on ne voulait plus de roi. Et on a dit qu'on voulait une société qui soit un peu plus équilibrée. Et les grandes familles de France, souvent, se sont enfuies parce qu'ils avaient peur. On pouvait leur couper la tête. C'est ce qui s'est beaucoup fait. Le roi et la reine ont eu la tête coupée, le roi et la reine de France. Et ils ont laissé tout sur place. Ils sont partis très, très rapidement. Et du coup, on a pris ce qui leur appartenait et ça a été mis de côté. Et quand plus tard le musée a été fabriqué, on a donné ce qui avait été pris au musée de Rennes pour pouvoir justement le montrer.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Est-ce qu'on va voir un petit peu les momies avant le groupe des enfants Ça vous va? Il n'y a pas de problème par rapport aux momies
Ça, c'est le tableau qui fait venir des gens du monde entier.
Alors, il s'appelle Georges de la Tour. Et là, on est dans une époque où il y a beaucoup de tableaux religieux qui sont faits, qui sont commandés par la religion chrétienne pour raconter d'une manière simple la vie de Jésus, de Marie, qui sont des personnages religieux très très importants, notamment en Europe. Donc on va demander à des artistes de réaliser des images faciles, simples à comprendre. Et ici, par exemple, tout est fait pour nous présenter le début de vie d'un petit garçon, d'un petit enfant, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Et on dit que c'est le premier vrai bébé de l'histoire de l'art.
Donc, rebonjour.
Rebonjour.
Bienvenue à l'Opéra. Je m'appelle Louise, je travaille à l'Opéra comme médiatrice culturelle et aussi comme ouvreuse. Et ben donc aujourd'hui, on va visiter à la fois les espaces publics où on va quand on va voir un spectacle, mais aussi les coulisses de l'opéra, tout ce qu'il y a derrière la scène et qu'on voit pas, tout ce qui permet de créer un spectacle en fait. Ici, on est dans l'entrée de l'opéra qu'on appelle la rotonde en raison de sa forme ronde comme ça. Cet opéra, il a été inauguré en février 1836. À l'origine, c'était pas un opéra mais un théâtre. Donc jusqu'en 1993, en fait. Et peu à peu, la programmation théâtrale de l'opéra a été déplacée vers le TNB. La programmation de l'opéra s'est tournée exclusivement vers la musique, donc que ce soit des opéras, des concerts, de la danse, toutes sortes de musiques, mais il faut que la musique soit centrale dans le spectacle qui y est joué. Vous pouvez venir par ici. Maintenant, on va aller voir l'endroit le plus mystérieux de l'opéra, qui s'appelle le dessous de scène, parce qu'on est en dessous de la scène. Et le surnom qu'on donne à cet endroit, c'est aussi la forêt, à cause de ces poteaux noirs, on dirait qu'on est dans une forêt un peu sombre, et parce qu'avant d'être en fer, ces poteaux étaient en bois. C'est vraiment comme une forêt qui soutient la scène. Et est-ce que vous connaissez quelques mots et choses qu'on n'a pas le droit de dire dans les salles de spectacle?
Une couleur.
Une couleur qu'on n'a pas le droit de porter, ouais. Non, c'est vert. Et pourquoi on n'a pas le droit de porter cette couleur? Ça vient principalement de l'histoire qui dit que Molière, le grand écrivain dramaturge, serait mort sur scène pendant son spectacle parce qu'il portait un habit vert ou parce qu'il était assis sur un fauteuil vert, ce qui est une légende complète parce qu'en fait il était très malade et il est mort après le spectacle. Mais du coup, tous les gens se sont dit « Oh là là, c'est la couleur verte qui l'a tué ». Mais ça vient aussi, donc il y a une partie un tout petit peu réelle qui est qu'il n'y avait pas de colorant naturel avant pour faire le vert et qu'on utilisait quand même une petite dose de poison pour créer la couleur verte, mais je pense à dose minime. Il y a d'autres mots qu'on n'a pas le droit de dire qui sont liés au fait que les premières personnes qui ont été embauchées pour travailler dans les théâtres, c'était principalement des marins, parce qu'il fallait que ce soit des gens qui soient agiles, donc qui soient adroits, qui puissent travailler très en hauteur, parce que vous avez vu sur la scène, il y avait les câbles qui montaient très haut, donc qui travaillent dans les cintres, on appelle ça, donc des passerelles qui sont à 20 mètres au-dessus du sol, travailler dans le noir aussi, comme sur les bateaux. Beaucoup des superstitions et des traditions de la mer sont passées dans les salles de spectacle, et donc il y a notamment un animal que là, on va vraiment vraiment pas dire. Qui a L. des grandes oreilles, des grandes dents. Commence par un L.
L à moi.
Alors,
on
oui.
On n'avait pas le droit de le dire.
Heureusement, on va dire qu'on est sous la scène et que du coup,
voilà.
C'est OK.
On ne peut pas le dire.
Bonjour, je m'appelle Diana. Est-ce que vous pouvez présenter, s'il vous plaît?
Alors, moi, je m'appelle Delphine. Je travaille au pôle des publics à l'Opéra de Rennes. Et on accompagne régulièrement des classes, des groupes d'adultes, voilà, pour une découverte de l'opéra.
Combien de gens travaillent ici?
Alors, nous sommes 34 permanents et beaucoup d'intermittents nous aident sur les moments où on accueille des spectacles.
Est-ce que l'opéra est accessible à tous? Ou est-il au contraire élitiste?
Non, il n'est pas élitiste. Mais des personnes nous l'ont fait croire à un moment donné. Donc aujourd'hui, on paye un petit peu les pots cassés de cette période-là. Mais l'opéra est vraiment par essence populaire. Il est né dans la rue. Aujourd'hui, en tout cas, ici, vous êtes dans une maison qui va travailler l'accessibilité, mais au sens très très large du terme. L'accessibilité des propositions artistiques, des spectacles. Hein. On a des spectacles, des opéras, de la musique du monde, de la danse, des concerts d'une heure, très très accessibles pour les familles à partir de 6 ans pour les enfants, des garderies gratuites sur ces moments-là d'ailleurs. Et donc la programmation, elle est très ouverte, donc on peut venir découvrir l'opéra même si on ne connaît pas l'opéra. Aussi pour les personnes en situation de handicap, l'accessibilité du bâtiment, vous avez vu, hein, il y a des ascenseurs permettant aux personnes, il y a des places dans la salle sans marche, pour les musiciens, pour aller dans la fosse aussi, on a ce qu'il faut. Et puis on organise des séances en audiodescription pour les personnes aveugles aussi, par exemple. Et avant, nous, on organise des visites sur le plateau où on les invite à toucher. Donc les personnes aveugles peuvent toucher les décors, les costumes, les accessoires et rencontrer les professionnels.
Est-ce qu'il y a des relations historiques entre l'opéra et la mairie? Compte tenu de la structure architecturale des bâtiments des deux institutions.
Oui, en fait, alors la mairie, elle est plus vieille que l'opéra. Il y a un siècle à peu près d'écart entre les deux bâtiments. Et c'est pour ça que l'architecte à qui on a commandé ce théâtre, Charles Millardet, on lui a demandé d'imaginer un théâtre en lien avec l'hôtel de ville, avec la mairie. Il fallait que ces bâtiments soient harmonieux, se ressemblent. Et vous savez maintenant que ces deux bâtiments, en fait, ont beaucoup de ressemblances avec la rotondité, hein, qui correspond à la concavité de la mairie. Donc ce sont deux bâtiments qui communiquent beaucoup. Quand vous êtes dans le foyer public, avec le grand miroir, l'hôtel de ville se reflète dans la pièce. Donc on est toujours en fusion avec l'hôtel de ville. Alors le lien avec l'hôtel de ville, c'est aussi que l'opéra est une structure municipale.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pouvez-vous vous présenter?
Alors, je me nomme Gilles Brohan et moi je suis animateur de l'architecture et du patrimoine au sein de Destination Rennes, l'office de tourisme.
Pouvez-vous nous dire où l'on se trouve?
Nous sommes ici, pour le coup, dans la grande chambre du palais du Parlement de Bretagne qui sert comme cour d'appel de Rennes depuis 1804. Donc c'est la cour de justice qui est installée ici.
Quel est votre travail?
Alors, mon travail consiste à programmer, organiser les visites guidées pour tous les publics. Les habitants, les scolaires et aussi les touristes qui viennent découvrir Rennes.
Quand est-ce que le paravent a été construit?
On a posé la première pierre en 1618. Le gros œuvre, c'est la maçonnerie et la toiture, sont achevés en 1655. Et on a coutume de dire que tous les travaux étaient terminés en 1709. Donc il y a quasiment un siècle de chantier entre la prise de décision de construire le palais et puis l'achèvement des décors intérieurs.
Pouvez-vous nous donner quelques informations sur l'incendie de 1994?
Alors, comme vous imaginez, il y a eu une enquête qui a été conduite pour savoir d'où était parti le feu. Et ce qui s'est passé le 4 février 1994, il y a eu une grande manifestation de pêcheurs qui sont venus à Rennes parce que Il y avait le premier ministre de l'époque qui venait à Rennes. Les pêcheurs étaient très en colère. Et donc, on va avoir, dans la journée du 4 février 1994, des affrontements très violents entre les manifestants et les forces de police. Et il y a, vous savez, les marins-pêcheurs, ou dans le monde de la pêche, on utilise ce qu'on appelle des fusées de détresse, qui sont un peu comme des feux d'artifice, mais qui servent quand on est en difficulté en mer, par exemple, pour se signaler qu'on a un problème quelque part. Et donc, ce jour-là, il y avait plein de fusées de détresse comme ça, qui volaient dans tous les sens, sur la place du Parlement. Et la conclusion de l'enquête, c'est qu'une fusée de détresse s'est logée à gauche du cadran solaire, que le feu a couvé pendant plusieurs heures, et à minuit, c'est toute la charpente de bois qui a pris feu. Donc les pompiers ont été très rapidement sur place, mais quand ils arrivent, c'est déjà trop tard, parce que toute la charpente est en feu à ce moment-là.
Quel est le rôle du bâtiment à travers les siècles ? A-t-il seulement été une cour de justice ?
Alors finalement, ce qui fait le lien avec l'époque de construction du bâtiment, c'est qu'il a toujours servi dans l'exercice de la justice. Sous l'Ancien Régime, donc depuis, on va dire, 1656 jusqu'en 1790, c'est la justice du roi qui est rendue ici. Et puis, après la période révolutionnaire, en 1804, c'est la création de la cour d'appel par Napoléon Ier. Donc, et c'est toujours l'activité du lieu aujourd'hui. Donc c'est la représentation du ministère de la Justice aussi, d'une certaine manière, ici à Rennes, en Bretagne.
Il y a combien de procès par an ?
Il y en a beaucoup. Là aussi, j'ai pas de chiffres qui me viennent à l'esprit. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus de procès. Souvent, on dit que, de manière générale, la justice est lente, mais elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires aussi à traiter. Et donc, elle fait comme elle peut. Et donc, il y a parfois, je vous l'ai pas dit quand on est rentré ici, mais au niveau de l'agencement, vous voyez, de la salle, certaines audiences de justice qui peuvent avoir lieu ici. Ça montre bien qu'il a fallu aussi s'installer dans d'autres pièces du bâtiment pour pouvoir absorber, en tout cas, tenir ses affaires, ses procès et ses affaires judiciaires, oui.
Quel est le procès qui a duré le plus longtemps ?
Ah, c'est une bonne question, ça aussi. ce qui me vient en tout cas à l'esprit, c'est alors une affaire qui était sordide parce que c'est une petite fille qui avait été assassinée. Et donc, on a retrouvé longtemps après, parce que c'était un tueur en série, comme on dit, donc quelqu'un qui avait commis d'autres crimes par le passé. Et les enquêteurs, par recoupement, ont fini en fait par arrêter cette personne qui s'appelait Arce Montes, qui était d'origine espagnole. Et du coup, il y a eu plusieurs procès pour le coup, avec le dernier qui s'est tenu en fait ici. Et ça a été relativement long, et c'est surtout un grand procès médiatique, parce que l'affaire, elle avait été évoquée par les médias, par les journalistes, et donc l'opinion, ou le public en tout cas, était au courant de cette affaire-là. C'est bien que quand le procès en appel a eu lieu ici à Rennes, la grande chambre où nous nous trouvons, elle servait uniquement pour les journalistes. Et il y avait du public qui était dans la salle des assises où le procès avait lieu. Et il y avait aussi d'autres salles au rez-de-chaussée du bâtiment où on pouvait voir le procès en visioconférence. Mais donc ça a attiré à la fois beaucoup de monde et ça a duré aussi très longtemps parce qu'il y a différentes parties qui ont dû expliquer. Parce que quand c'est comme ça, vous reprenez toute l'affaire en fait à zéro parce que c'est un nouveau jugement. Donc on a vraiment tous les éléments pour pouvoir juger. Et donc, ça fait partie sans doute des procès les plus longs qui sont tenus ici au sein de cette cour d'appel.
Merci beaucoup pour le temps accordé.
Merci beaucoup pour la réponse.
Merci à vous.
Bienvenue. Ok, c'est un beau groupe multiculturel. C'est trop bien. Ok.
Bonjour. Je m'appelle Hossein. Vous pouvez présenter, s'il vous plaît.
Alors, donc, je suis Lucie. Je travaille à l'Antipode depuis 2 mois en tant que chargée d'action culturelle.
Combien de gens travaillent ici ?
Environ 25 salariés.
Quel est votre travail ?
Alors, mon travail, c'est je suis en charge de l'action culturelle et des expositions. Donc, l'action culturelle, c'est des projets qu'on met en place avec différents publics. En fait, on fait des liens. On crée des passerelles entre les artistes qu'on reçoit dans les murs de l'Antipode et les publics du territoire. Par exemple, des écoles, des centres sociaux, avec le milieu carcéral aussi.
Depuis combien de temps l'Antipode est ouvert ?
Alors, l'Antipode dans lequel on se situe aujourd'hui, il est ouvert depuis un an. C'est la deuxième saison qu'on fait dans ces murs-là, dans ce bâtiment. Mais l'Antipode existe depuis 60 ans.
Il y a des événements gratuits dans l'Antipode ?
Oui, il y a des événements gratuits. Il y a beaucoup d'événements différents. Donc parfois, on organise, comme là en ce moment, une exposition. Il y a eu le vernissage en présence de l'artiste. Ça, c'est des temps qui sont gratuits. Il y a parfois aussi des projections, débats, des rencontres ou aussi des concerts qui sont gratuits sur des formats apéro-concert, souvent.
Quel type de spectacle programme les lui?
Alors, le principal type de spectacle qu'on programme, ce sont des concerts, puisqu'on est une salle de concert, mais on peut quand même programmer parfois des formes hybrides qui mélangent, par exemple, cinéma et concert, ou danse et musique.
Quel est votre meilleur souvenir ici?
Mon meilleur souvenir ici, ça fait pas longtemps que j'ai commencé dans ce nouvel Antipode. Donc je dirais peut-être le temps du vernissage qu'on a fait la semaine dernière avec donc les enfants. Il y a une artiste qui était en projet avec les enfants du centre de loisirs et ils ont créé ensemble donc une exposition. Et le moment du vernissage, c'était un moment où les familles des enfants étaient présentes pour découvrir les créations des enfants avec l'artiste. Donc les enfants étaient fiers et contents de partager avec leur famille. Donc c'était un temps qui était très chouette.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Donc pour vous expliquer un peu, donc l'Antipode, c'est une association qui est assez spécifique sur le territoire rennais, mais aussi sur le territoire en France. C'est assez rare et original. C'est une association qui regroupe donc une salle de concert, une MJC, donc en animation de quartier, animation sur le territoire, et il y a aussi une bibliothèque. Donc on a dans le même bâtiment plusieurs pôles comme ça. On a une salle de concert, on a des studios de répétition, on propose aussi des ateliers hebdomadaires. Toutes les semaines, il y a des cours de chant, des cours de saxophone, de guitare, de batterie, de théâtre, de danse. La liste est longue, attention. Ici, on est à la Courrouze. C'est un nouveau quartier de Rennes, qui est un ancien quartier militaire et du coup qui est en transformation. Donc il va y avoir beaucoup de nouveaux habitants dans le quartier. Le rôle de l'Antipode, de l'association, c'est de faire le lien entre l'ancien quartier où on était avant, c'est-à-dire Clenay, et faire le lien aussi avec les nouvelles personnes qui vont arriver à la Courrouze, puisque c'est un quartier nouveau. Dans l'Antipode, on est 25 personnes à peu près à travailler. On est beaucoup plus nombreux dans le projet Antipode. Il y a beaucoup de bénévoles. Par exemple, sur les concerts, on a à peu près 100 personnes qui sont inscrites en tant que bénévoles, qui vont aider aussi des fois en technique, sur les métiers techniques pendant un concert. Ça, on va en parler, on va aller voir la salle de concert et on va se concentrer un peu sur les différents métiers aussi, si ça vous intéresse. Mais les métiers techniques du son, de la lumière, il y a les techniciens en plateau aussi. Et puis ouais, il y a plein de choses. En fait, l'Antipode, c'est quand même, il y a plein d'entrées possibles, que ce soit à travers le concert, à travers la bibliothèque, à travers les ateliers de musique ou d'art plastique ou les stages. Ou, je vous disais, la semaine prochaine, il y a la projection sur l'histoire du quartier de la Courrouze et de Clenay. En fait, il y a plein de choses qui se passent ici. Et donc il y a plein de manières de venir à l'Antipode. C'est pas parce que si vous aimez la musique, vous pouvez venir ici. Oui, mais il y a plein d'autres manières de venir à l'Antipode aussi. En fait, c'est ça, il y a plein d'usages possibles, c'est un lieu qui est ouvert et qu'on veut accueillant aussi pour les personnes. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Voilà.
De la péniche spectacle ici. Ici, c'est des péniches qui ont été construites
dans les années 60, en 1962 environ. En fait, elles ont été construites en même temps pour transporter des matériaux de construction. Donc là, ces péniches-là, dans leur cale, elles ont transporté du sable. Hugues et Annie, qui tiennent ces péniches spectacle, eh bien, ils ont récupéré ces péniches abandonnées pour en faire ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. C'est vraiment pour accueillir des spectacles, pour accueillir des ciné-documentaires. On accueille également des coursifs de midi. Ce qu'on appelle coursifs de midi, c'est-à-dire que on va accueillir des personnes le midi à partager un pique-nique ensemble, c'est assez convivial, sur cette péniche-là, la Dame Blanche. Et pendant ce temps-là, du coup, on a des sortes de spectacles, comme des cabarets, qui se produisent. Avec le Théâtre du Pré-Perché. Le Théâtre du Pré-Perché, c'est la compagnie qui fait partie de la péniche spectacle, qui existe même avant ces péniches. En fait, Hugues, que vous allez voir tout à l'heure, et Annie avaient cette compagnie de théâtre avant. En fait, la péniche, elle reste à quai sur la Vilaine de septembre à avril. On dit qu'elle reste là, mais qu'elle nous emmène voyager avec des concerts de musique du monde. En fait, on part vraiment aux quatre coins du monde avec cette programmation. Donc il y a des concerts, il y a du théâtre, notamment avec le Théâtre du Pré-Perché. Il y a plusieurs spectacles, par exemple, là en janvier, on a Swing Chic et Zazoucha.
Vous pouvez vous présenter?
Oui, je suis Fanny de la Péniche Spectacle. Et donc ici, je fais partie de l'équipage et je suis médiatrice culturelle.
Depuis combien de temps Péniche est ouvert?
Ça fait une trentaine d'années que la péniche est vraiment rénovée et donc que petit à petit elle a commencé à accueillir des publics.
Il y a combien de visiteurs péniche par an?
Par spectacle, il y a environ 70 spectateurs. Sachant que ici on accueille également beaucoup de scolaires. Il y a beaucoup d'écoles qui viennent à bord pour voir des spectacles.
Quel spectacle le lieu propose en ce moment?
Alors, on a la coursive en passant par Valparaiso. Et cette coursive, eh bien, c'est autour du Chili. Et donc, c'est une coursive de midi. C'est un cabaret chanson. Et donc, c'est le mercredi 8 février, en passant par Valparaiso.
Avec des mots, il coule la vie. Il coule le jour, il coule la nuit. Avec des mots, il coule la vie.
Qu'on était en train de répéter là. Alors ça, ce spectacle-là, il y a déjà 2-3 ans qu'on joue.
2019, peut-être.
Oui, c'est ça.
Le spectacle.
Donc là, comme on va jouer lundi, qu'on le reprend un peu, on fait des répétitions pour le réchauffer. On pourrait y aller comme ça, mais c'est pas agréable de pas avoir
besoin de retrouver l'ambiance, puis de se remettre d'accord sur voilà. Les choses. Peut-être arranger des petites...
Il y a des automatismes qu'on perd si on répète pas souvent, quoi. Oui, parce que en fait, la péniche, c'est notre théâtre qui l'a créé. Et quand on a créé ce lieu-là, on s'est dit, on pourra mettre nos spectacles, mais ça sera pas assez, ça variera pas assez. Donc on s'est dit, il faut inviter des artistes, ça c'était la première chose. Puis après, comme le lieu bouge, ça nous permet de jouer un peu partout, mais il n'y a pas de l'eau partout. Donc moi, je continue de jouer dans des salles, d'aller dans des lieux, dans des bibliothèques, des médiathèques, des salles de spectacle. On peut dire qu'on a, à peu près 150 spectacles par an dans la péniche. Entre là, quand on est en itinérance et tout ça, c'est une moyenne, même c'est des fois 180. Plus après tout, les ateliers, les réunions, les répétitions, et tout ça. Donc le lieu, il est tous les jours utilisé, quoi.
Merci beaucoup, merci de nous avoir
Et vous, alors,
permis
de... Vous continuez là-bas, vous verrez. La bonne continuation.
Merci, merci.
Bienvenue quand vous voulez à la péniche. Hein. Voilà,
si merci. Vous êtes merci. Là, là. Merci.
Merci à vous d'être venus.
Les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.